radiovostok.ch.
Complètement débule.
T'es débule ou bien?
On dirait qu'il te manque une case.
Débule ou bien?
Il te manque une case.
Complètement débule. L'émission qui parle bande dessinée. Aujourd'hui, on rencontre une jeune femme de la scène suisse de la bande dessinée.
Ok.
Enfin, disons que c'est une artiste suisse de la BD qui s'est exilée depuis quelques années dans l'autre pays de la BD, puisque son atelier est installé à Bruxelles, en Belgique.
C'est le pays de la BD une fois. Monsieur de Fred de Molde, de la bière de Goffre de...
Mais Léonie Bischoff revient souvent en terre helvétique et nous savons l'y accueillir, puisqu'elle était cette année une des invitées d'honneur du Salon du Livre de Genève.
Cool.
C'est là-bas que nous l'avons rencontrée, pour évidemment parler de bande dessinée et aussi de dinde. Salut Léonie.
Salut.
Alors Léonie Bischoff, illustratrice et autrice de bande dessinée basée à Bruxelles, née à Genève, tu as grandi au Petit Lancy, tu es fan de Nirvana et d'Elvis Presley, tu as toujours aimé passer ton temps à lire et gribouiller, et tu es bien contente d'avoir pu faire de la BD ton métier. Je crois que tu commences la BD en 2009 avec un premier récit graphique. Tes titres sortis, Oudou Darling, en 2013, une histoire vaudou dans le Bayou en Louisiane. On est dans le registre du fantastique. Alors excuse-moi déjà la prononciation. Fjallbaka.
Fjallbaka.
Fjallbaka. La première adaptation en bande dessinée de la célèbre série de polar de Camilla Läckberg. Tu étais au dessin entre 2014 et 2008. Trois albums, c'est des polars. Anaïs Nin. Sur la mer des mensonges en 2020, un roman graphique biographie historique qui figure dans la sélection officielle du Festival d'Angoulême en 2021 et s'il vous plaît obtient le prix du public. Un album à succès, 100 000 ventes, traduit en 8 langues je crois. Et tout récemment, tu viens de sortir La longue marche des dindes en 2022 aux éditions Rue de Sèvres, adaptation du roman The Great Turkey Walk, pas se tromper parce que sinon ça peut faire La grande marche de Turquie,
oui.
De Kathleen Carr. Qui te vaut aussi de nouvelles distinctions, dont le prix jeunesse du Festival d'Angoulême 2023. Chapeau, ça te va comme présentation, Léonie ?
Très bien, ouais, c'est super.
Et Léonie, on te rencontre au Salon du Livre de Genève, dont tu es l'invitée d'honneur, et avec Elisa Chua du Sapin et Joël Dicker, rien que ça. Ça fait plaisir, non ?
Ça fait super plaisir, surtout que ouais, c'est ma ville natale, c'est un salon que j'ai beaucoup fréquenté, enfant et ado, donc il y a un sentiment d'avoir un peu bouclé la boucle, c'est vrai que c'est agréable.
C'est un retour aux sources ?
Retour aux sources et puis un sentiment d'accomplissement en fait, de me retrouver à la place des auteurs et autrices que j'admirais quand j'envisageais à peine de faire carrière là-dedans, c'est assez symbolique.
Et puis alors le Salon du Livre à Genève c'est en mars, le 20 minutes titré le 5 mars, Léonie Bischoff a explosé en BD avec ses deux derniers albums qui l'ont propulsé sur le devant de la scène. Voilà, ça dit dithyrambique hein.
Ouais, c'est franchement, moi j'ai de la peine à réaliser parce que je suis quelqu'un d'assez... perpétuellement insatisfaite de ce que je fais et du coup je suis toujours en recherche de le prochain, qu'est-ce que ce sera et comment je veux m'améliorer sur ceci ou cela, mais c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien de voir, ah ouais ça, quand même c'est bien ce que j'ai fait.
Bon tu savoures mais concrètement ça veut dire qu'il y a une exposition qui t'est dédiée,
ouais.
Et tu fais aussi des conférences?
Oui c'est ça, je fais des rencontres un peu tous les jours, des animations. Alors en tant qu'invité d'honneur j'ai aussi pu moi-même inviter d'autres gens. On m'a laissé un peu carte blanche, donc j'ai invité Joseph Kay, qui est un jeune auteur franco-libanais dont j'adore le travail. J'ai invité Pierre Lecrenier et Nicolas Pitz, qui sont deux de mes camarades d'atelier, pour parler justement de la vie en atelier de BD.
Une conférence qui vient de se tenir,
c'est
juste
ça.
À l'instant. Et là, voilà, tu parlais du travail avec eux, qui sont voilà, dans ton atelier à Bruxelles. Je crois que vous êtes une dizaine, c'est ça?
On est 9 maintenant, ouais. Et auteur, autrice, tout le monde fait de la BD, parfois un peu de graphisme ou d'illu à côté. Mais c'est vrai que notre passion commune, c'est la bande dessinée.
Bon, et puis moi, j'ai assisté à la conférence. Il a l'air sympa, cet atelier.
C'est super chouette. C'est vraiment un cadre de travail exceptionnel.
J'ai d'ailleurs noté qu'il y a un petit chien, là,
oui.
Qui apparaît dans ta BD dont on va parler. Donc, un Easter egg, on appelle ça.
C'est ça.
Donc, voilà,
un truc que j'aime bien faire.
Il prend place comme personnage dans La longue marche des dindes. Et on va parler de ce titre, La longue marche des dindes. Je crois que voilà, tu t'es jeté dans ce titre parce que tu es passionné par les dindes, c'est ça?
Exactement. Enfin pouvoir donner aux dindes leur place dans la BD.
Bon, si j'ai bien compris, c'était surtout une proposition de projet de ton éditeur.
Ouais, alors c'est un éditeur avec qui je n'avais pas encore travaillé, c'est Rue de Sèvres. En fait, c'est une maison qui est la maison fille de l'école des loisirs. Donc ils ont un catalogue de romans jeunesse. J'allais dire inépuisable, pas tout à fait, mais presque. Et ils aiment bien faire des adaptations de leurs titres en roman en BD. Et j'avais dit que je souhaitais faire quelque chose avec beaucoup de paysages en plein air. J'avais pas envie de dessiner des intérieurs. J'adore dessiner la nature, les plantes, les paysages, les lumières. Et donc, ils m'ont proposé de lire La Longue Marche des Dindes, qui est donc un western, en fait, et qui se passe... on a une amplitude de 1000 km à travers les États-Unis, donc des paysages variés, des lumières assez dramatiques parfois avec lesquelles on peut jouer, donc énormément de plaisir de dessin.
Alors voilà, et puis je crois aussi que tu aimais bien les valeurs défendues par le livre, et puis tu avais un certain attachement au personnage.
Oui, tout à fait. En fait, le héros Simon a une douzaine d'années, il est très très mauvais à l'école. On se rend compte plus tard à travers ce que lui-même peut nous raconter qu'en fait, cet enfant, il est dyslexique. Mais à l'époque, il n'y a pas de mot pour ça. Ce n'est pas un concept qui a encore été reconnu, identifié. Donc, il est juste considéré comme un peu bêta et assez méprisé par les gens de son village. Il est orphelin en plus. Enfin, il a vraiment un démarrage dans la vie pas facile. Mais grâce au regard super bienveillant de son enseignante qui croit en lui, qui voit qu'il a plein de potentiel, il va avoir l'idée d'acheter tout un troupeau de dindes qui, dans ce coin-là, ne valent pas grand-chose et d'aller les revendre à 1000 km de là, à Denver. C'est le moment de la ruée vers l'or. On dit que là-bas, les rues sont pavées d'or, mais par contre, il n'y a rien à manger.
Alors voilà, on rentre dans l'histoire. C'est un peu le pitch. On est dans le Missouri, été 1860. Après avoir redoublé plusieurs fois, sa maîtresse l'invite gentiment à déployer ses ailes. Elle lui dit qu'il a son diplôme, mais c'est pour lui dire qu'en fait, il faut qu'il sorte de l'école. Et il se rend compte que justement, peut-être il peut faire affaire avec ces fameuses dindes. Mais pour entamer un périple et aller vendre ses 1000 dindes trois états plus loin, il a besoin d'un peu de financement. Et puis il demande à sa maîtresse qui accepte de l'aider. Et c'est elle qui va le financer. Et puis le voilà parti pour traverser le Missouri, le Kansas, le Colorado. Bon voilà, c'est un peu le pitch.
C'est un peu le pitch.
Avec ce Simon, très attachant. Tu nous parles un peu des autres personnages. Alors Simon, peut-être j'avais envie de rajouter. Voilà, sa mère est décédée, son père est parti. Il vit avec son oncle Lucas et ses cousins. Et puis, il a une énergie qui fait toute la force de l'album et du personnage.
Ouais, c'est ça. En fait, ça a été une de mes accroches en lisant le roman. En fait, Simon, c'est l'optimisme incarné. Il a une espèce de bonne volonté. Il ne se laisse pas démonter. Même quand les gens... Alors, ça peut lui jouer des tours aussi parce qu'il est tellement optimiste qu'il ne voit pas quand les gens sont mal intentionnés. Il va toujours essayer de voir le bon côté des choses, quitte à être un peu, des fois, lui-même le dindon de la farce parce que les gens vont abuser de sa gentillesse et des fois de sa crédulité aussi. Mais en même temps, ça lui donne une grande force parce que dans toute situation, il va trouver le bon côté et jamais se laisser abattre.
Et voilà, cette innocence qui va de pair avec le positivisme. Simon, donc personnage principal, Miss Rogers, la maîtresse dont on a parlé. Puis il y a aussi un Bidwell Peace, je ne sais pas trop si je le prononce bien. Lui, il est intéressant aussi, c'est le muletier qui va accompagner Simon pour aider à faire avancer les dindes avec des mules. Lui, c'est un pauvre gars, un peu alcoolique, et il est aussi très attachant.
Oui, en fait, lui, c'est le premier, deuxième personnage auquel on va s'attacher. Et c'est déjà une première entorse aux règles du genre western. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, j'avais l'impression très souvent dans le western, c'est chacun pour soi et seul contre tous. Sauf que Simon, avant même d'avoir entrepris son voyage, il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir à la fois conduire un chariot, quatre mules et un troupeau de 1000 dindes. Et donc très vite, et en plus, il ne connaît pas le chemin. C'est un petit garçon de 12 ans, les États-Unis. Ce n'est même pas encore les États-Unis vraiment tels qu'aujourd'hui. C'est des pistes, pas des routes. Et donc, il sait qu'il y a ce monsieur Bidwell Peace qui passe régulièrement. C'est un très bon pisteur, c'est un muletier à la grande expérience, mais qui, depuis quelques années, est vraiment tombé dans un alcoolisme grave. Tout le monde se fout un peu de sa gueule, il est vraiment au bout du rouleau. Mais Simon décide de le recruter un peu de gré ou de force et de lui faire une petite cure de désintox maison pour le remettre sur pied. Et
voilà, sans le vouloir, il va l'aider à reprendre goût à la vie. Quoi.
Voilà, ouais. Et on va apprendre un petit peu au fur et à mesure l'histoire de Bidwell Peace et comment il en est arrivé là.
Bidwell Peace et son chien Emmett, qui est donc aussi le chien de votre atelier.
Emmett, dont je me suis inspiré du chien de ma collègue d'atelier parce que dès que j'ai lu le roman, la description collait parfaitement.
Et au fil de leur itinérance, ils rencontrent d'autres personnages. Joséphine, petite esclave, qui est aussi
en fuite, qui se cache.
Très révélatrice de l'époque. Ouais. Et puis aussi un de ces personnages de western, mais qui est traité autrement dans l'histoire finalement.
Oui, tout à fait. Et c'est un personnage avec qui, par rapport au roman, j'ai pris un peu de liberté. C'est un roman qui a été écrit il y a plus de 30 ans. Et quasiment tous les personnages étaient des petits garçons, en fait. À part la gentille maîtresse d'école, la trapéziste un peu vulgaire et la méchante marâtre, en gros. Et Joe, au départ, était un petit garçon. Et j'ai demandé l'autorisation à la fille de l'autrice, parce que l'autrice originale est décédée.
En 2017, je crois.
Ouais. De pouvoir transformer Joe en une petite fille. En plus, comme c'est une esclave en fuite, elle a coupé ses cheveux, elle a pris des vêtements de garçon pour faciliter sa fuite. Donc pour moi, ça allait très bien. Et elle a effectivement été tout à fait d'accord. En plus, son talent, un des principes de Simon, c'est qu'il va toujours chercher à révéler le talent des autres. Et Joe, elle est plutôt à l'aise avec la chasse, la pêche, les armes. Elle manie très bien les couteaux comme les carabines. Et donc, c'est des qualités qui sont typiquement plutôt associées au masculin. Mais ça me plaisait d'avoir un personnage comme ça qui, en fait, a des capacités qu'elle s'est forgées au fil de son parcours, peu importe son genre.
Personnage très attachant. Puis quand elle arrive dans la BD, on a l'impression que c'est un petit garçon.
Oui, tout à fait. Elle se cache un peu comme ça.
Bon, j'avais envie de parler aussi de Samson. Samson, comment tu
Samson,
dis
Samson, le père. Donc,
alors lui, c'est un sale type, hein.
Oui, je pense que lui...
On avait besoin un peu de sale type au milieu de tout ça, mais lui, ouais. C'est vraiment un sale type, quoi.
Oui, oui, et puis fourbe avec ça, mielleux, qui essaye de reconquérir un peu le cœur de son fils. On peut croire au départ à des retrouvailles heureuses, mais en fait, c'est juste un arnaqueur. Lui, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, il va toujours essayer d'entourlouper les gens. Il en a même fait une sorte de philosophie et... Clairement, à part pour le physique, Simon ne tient pas de lui. Quoi.
Voilà, et alors ce Simon, il découvre des embûches au fil de son itérance, comme dans la vie, c'est l'apprentissage un peu de la vie. Il va aussi croiser le chemin de Lizzie, Elizabeth Hardwick, excuse pour mon accent, qui a perdu toute sa famille suite à la famine et puis des ravages causés par les sauterelles. Et puis Simon, face à cette petite Lizzie, il va être un peu moins sûr de lui parce que je crois qu'il aime bien. Hein.
Ouais, ouais, Simon, il a 12-13 ans, Lizzie, elle est un poil plus âgée. C'est effectivement, elle, en fait, à travers ce roman graphique, on voit un peu tous les clichés du western et elle représente vraiment ces familles de pionniers qui sont partis en quittant tout pour aller s'installer sur des terres en n'arrivant pas forcément là où ils espéraient aller. Et là, effectivement, cette famille s'est installée sur des terres extrêmement arides. Les cultures n'ont pas pris et elle se retrouve la seule survivante, donc très traumatisée. Et Simon arrive effectivement un peu, enfin Simon et sa petite troupe, comme des sauveurs. Et ils se retrouvent un peu en position à la fois d'admirer cette jeune femme qui est un peu plus âgée, qui a une certaine assurance. Elle le voit comme un sauveur. Et en même temps, très vite, une sorte de malaise s'installe parce que Simon a un petit faible pour elle. Et Lizzie sent bien qu'il ne la traite pas comme il traite ses autres amis. Il la met sur une sorte de piédestal, il y a une sorte de distance qui s'installe et Lizzie va le confronter là-dessus. Et c'est une scène que j'ai trouvée très, très intéressante parce que j'aime beaucoup les histoires d'amitié entre garçons et filles, hommes et femmes. J'aime bien que ça ne doive pas systématiquement tourner en histoire d'amour et que des confrontations comme ça peuvent désamorcer les choses et ensuite tout se passe beaucoup mieux une fois que ça a été un peu mis à plat. C'est une scène que j'ai eu beaucoup d'intérêt à mettre en image.
Et puis Lizzie, elle rejoindra cette belle caravane pour continuer l'itinérance avec eux. On croisera aussi les Indiens, forcément.
Oui, oui. Comme je disais, on rencontre tous les poncifs du western et aussi tous les phénomènes qui ont fait les États-Unis d'aujourd'hui. Et toujours à travers le regard critique et des fois étonné de cette bande d'enfants qui ils vivent en plein dans cette époque-là. Il n'y a aucun recul là-dessus. Et ils rencontrent donc un clan du peuple Potawatomi qui ont été déjà déplacés. À la base, ce ne sont pas des Indiens des plaines. Ils ont été déplacés, parqués dans une réserve. Leur réserve est de plus en plus petite. Ils n'ont plus le droit d'en sortir. Et ils défendent corps et âme le peu qu'il leur reste. Et avec un regard extrêmement critique sur la logique des Blancs. Et c'est en fait des gens qui parlent extrêmement bien, qui sont l'anglais, je veux dire, qui sont très éduqués. Et ça surprend la petite troupe qui s'attendait à trouver des sauvages.
Très humains, ils sont plus humains que les autres qu'ils croisent finalement.
Plus civilisés et plus
civilisés, exactement.
Plus humains peut-être, effectivement, ouais.
Et au milieu de tout ça, forcément, on suit le pas des dindes. Il y en a mille. Alors quelques-unes vont être perdues au long du parcours.
Perdues, mangées, volées, ouais.
Mille dindes pour cette itinérance. Et puis une fin qu'on ne vous dévoilera pas, mais à vous de la découvrir, cher lecteur. Peut-être j'ai envie de parler avec toi un peu du dessin. Approche particulière pour le dessin, des couleurs, des tons sépia, ocre, sec. Toi, tu as souhaité sortir un peu du genre traditionnel, trouver une patte à toi un peu originale pour raconter finalement ce qui est un western.
Oui, au niveau des couleurs, par exemple. Alors, c'est vrai qu'on retrouve évidemment les couleurs désertique, de ces paysages majestueux des États-Unis qu'on connaît, c'est de nouveau un peu un cliché. J'ai essayé par moments d'en sortir aussi. J'ai été beaucoup regarder des peintres naturalistes américains et canadiens de l'époque pour sortir un peu de l'image, parce que mon image du western, elle est extrêmement influencée par Hollywood ou par le western spaghetti. Enfin, comme beaucoup d'entre nous, je pense, c'est l'image principale qu'on a de cette époque et de ces régions. Et en fait, il y avait des peintres impressionnistes qui allaient peindre sur le vif et qui sortent des couleurs complètement kitsch, des roses, des mauves, des pastels, assez surprenants, qu'on n'associe pas forcément au registre du western. Du coup, ça, je m'en suis pas mal inspirée. Et au niveau du dessin lui-même, j'ai essayé d'être un poil plus, pas caricatural, mais d'exagérer un tout petit peu les proportions, les expressions, parce que quand même, là, je m'adresse à un public. Le cœur du public que je vise, c'était plutôt les 9 à 12 ans. D'ordinaire, je fais plutôt des livres pour grands ados, voire adultes. Et là, je voulais un côté un peu plus tendre, un peu plus comique aussi par moment. Donc, j'ai exagéré un poil plus. J'ai pris un peu plus de liberté avec l'anatomie, avec les physionomies, que ce soit des animaux ou des humains. Et ouais, d'essayer de trouver beaucoup de tendresse dans mon dessin, parce que c'est ce que je ressentais pour les personnages en lisant le roman.
Alors, si ça va pour toi, j'ai justement envie de t'emmener vers les étapes créatives, puisque y a une exposition ici sur les étapes créatives spécifiquement de cet album. Et puis, il y a vraiment 4 étapes que tu distingues. Alors, tu es déjà allé un peu au fil de ces étapes, mais la première, c'est la documentation. Alors, pour les personnages et le décor. Puis donc, si j'ai bien compris, c'est des photos, des peintures. Et cette étape-là te permet de faire des croquis qui sont d'abord proches des photos.
Oui.
Puis petit à petit, tu vas t'en éloigner pour trouver ton trait. C'est ça,
ouais,
cette première
c'est
étape.
C'est ça, tout à fait. J'ai besoin d'abord pour... Il y a vraiment une sorte de comprendre les choses et... C'est presque comme les enregistrer, par exemple, en particulier pour toutes les pièces un peu techniques. Cette fois-ci, j'ai dû vraiment m'appliquer pour comprendre le système d'harnachement des mules. Entre une mule et un chariot, il y a tout un bazar, en fait. Alors, il y a des gens qui arrivent à hyper bien le simplifier. Par exemple, si on regarde dans les Lucky Luke ou dans les livres de Christophe Blain, il arrive à simplifier ça d'une manière incroyable. Moi, je n'ai pas ce talent pour la synthèse absolue. Il faut quand même que je... décortique un petit peu et que je comprenne vraiment comme une sorte de dessin technique. Donc ça, c'est vraiment une première étape qui vraiment, moi, me sert à comprendre de l'intérieur comment se passent les choses. Pareil avec les vêtements, chaque époque ou chaque univers dans lequel je me plonge, je vais devoir m'approprier un peu toute l'esthétique de l'époque. Donc il y a toute une étape vraiment très proche de la photo. Et ensuite, j'aime pas du tout mon dessin quand je dessine en regardant des photos. C'est assez laid, c'est assez rigide, c'est souvent maladroit. Enfin, c'est vraiment une partie qui va rester derrière la scène, on va dire. Et ensuite, je dois essayer de trouver comment le styliser avec ma patte. Mes points de départ, en général, c'est les visages de mes personnages ou de mes animaux. Ça, c'est là où ma patte personnelle va sortir le plus spontanément. Et j'essaye ensuite d'adapter le reste pour garder quelque chose de cohérent avec ces personnages.
Voilà cette première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est le scénario. C'est l'étape de la narration qui se fait en deux temps. D'abord une écriture en séquencier, puis ensuite le storyboard où intervient le découpage. C'est le moment finalement où on donne le ton et le rythme à l'histoire, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc le découpage, c'est vraiment dessiner le plus vite possible et presque en bonhomme patate parfois. Des fois, on peut pousser un peu plus. C'est aussi une étape intéressante pour chercher la gestuelle et la physionomie des personnages quand on ne les a pas encore tout à fait. Mais le but étant vraiment de poser combien de cases il y a par page, quelle taille de case, quel rythme, comment est-ce qu'elles interagissent sur les doubles pages aussi. C'est une particularité de la BD, c'est d'avoir des pages qui se regardent et parfois des effets de surprise au moment où on tourne la page. Donc cette étape-là, c'est là où on va réfléchir et poser tout ça. Moi, j'aime bien avoir un storyboard complet, nickel, relu, retravaillé, avant de me mettre au dessin final. Il y a des gens qui travaillent de manière beaucoup plus souple, en alternant, en ne travaillant pas forcément les séquences dans l'ordre. Ça, c'est vraiment chacun, chacune fait selon sa sensibilité, quoi.
Et on arrive à l'étape du dessin, la page au propre. Là, tu fais le dessin à la main, au trait.
Oui, je travaille avec 2 crayons. Il y a un premier crayonné qui se fait avec une sorte de bleu ciel très léger, comme ce qui est utilisé en dessin animé, vraiment un crayon qui... Traditionnellement, avec les vieilles façons de numériser les pages ou pour les imprimeuses, ce bleu ne passait pas à l'imprimante. C'est un bleu qui disparaissait. Donc traditionnellement, c'est vrai qu'on crayonne avec ça. Et ensuite, un crayon presque noir, mais qui est en fait un violet foncé, qui me permet de faire l'équivalent de l'ancrage. Moi, je n'encre pas à l'encre. J'aime pas trop les médiums liquides. Je préfère les médiums secs, pinceau, craie, fusain. Pinceau, je veux dire, crayon, craie fusain. Et du coup, voilà, j'aime ce crayon qui n'est pas noir parce que ça permet de donner une petite teinte déjà dans le trait. Et ensuite, numériquement, je vais pouvoir tricher, changer un peu la teinte une fois que la page sera scannée pour l'adapter à l'ambiance de chaque séquence.
Et la dernière étape, c'est la couleur, colorisation.
Voilà, ensuite, colorisation.
Que tu fais, je crois, aussi numériquement.
Tout à fait. Assez classique, numérique. Oui, avec, bah, là, j'ai collaboré avec ce qu'on appelle un aplatiste. Quelqu'un qui va me détourer chaque zone, parce que mine de rien, c'est très long et très laborieux. Et donc là, c'est une chance, c'est aussi un des avantages d'avoir une carrière qui démarre un peu, c'est que les éditeurs sont prêts à nous aider à aller plus vite par moment ou à se débarrasser de certaines parties très ingrates du travail. Alors, je ne souhaiterais pas le faire forcément pour chaque album, mais là, comme c'était plus presque un travail de commande, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié de pouvoir collaborer et ne plus faire que la partie joyeuse de la couleur, c'est-à-dire décider des couleurs définitives, puis mettre les ombres, les matières, tout ce qui rend le truc vivant, mais de ne pas avoir à redétourer chaque petite zone et chaque petite dinde, c'est pas mal.
Voilà, alors c'est comme ça que tu as conçu La Longue Marche des Dindes, BD qui est sorti aux éditions Rue de Sèvres. Du coup, Léonie Bischoff, on te rencontre au Salon du Livre. Et j'avais envie de savoir, ton prochain projet, c'est quoi ?
C'est encore un peu mystérieux pour le moment. J'ai pris pas mal de temps cette année pour voyager, accompagner les sorties dans différentes langues. Donc j'ai plus fait des travaux à court terme, des posters, des illus. Là, je relance tout doucement un processus de création pour de la BD. Mais c'est encore trop tôt pour en parler vraiment.
Pour finir l'émission, on a ce qu'on appelle des questions des bulles. Est-ce que ça te dit de te prêter à l'exercice ?
Oui.
Complètement des bulles.
Hé, oh, il te manque une case.
T'es des bulles.
Voilà, t'as pas le droit de te tromper, hein, je te préviens. Hein. Où a été inventée la BD ?
Genève.
Par un certain ?
Topfer.
Ouais, c'est bon, moi, c'était... Question qui sert à rien, quoi, excuse-moi. La première BD que tu te rappelles avoir lue ?
Lucky Luke.
La dernière que tu aies lue ?
Le dernier des cousines Tamaki, New York, New York.
Tu conseilles ?
Mitigé, honnêtement. Je suis un peu triste parce que j'avais adoré cet été-là. Celui-ci m'a pas du tout autant touché.
Alors, on prend cet été-là, du coup.
Cet été-là,
en termes de conseils de lecture.
Très, très vivement.
Te disent quoi les enfants en dédicace ?
Vous dessinez bien, madame.
Ils te demandent de dessiner quoi ? Simon ou des dindes ? Ou autre chose ?
Les dindes, beaucoup.
Les dindes.
Le petit chien aussi.
Et j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Forrest Gump à un moment.
C'est
quand
vrai.
Le perso, il se met à traverser l'Amérique et tout le monde se met à le suivre.
Ouais, et c'est vrai qu'il y a ce côté-là où on revisite les mythes à travers un regard innocent.
T'as regardé des westerns pour faire justement cet album ?
J'en avais pas mal regardé il y a quelques années parce que j'avais envisagé de faire un autre western qui ne s'est jamais fait. Là, j'ai pas regardé des films, mais plus des séries. Il y a eu quelques séries western récentes que j'ai trouvées super intéressantes.
Pourquoi tu vis plus en Suisse, Léonie ?
Parce que la Belgique, c'est super.
Tu manges de la dinde ?
Rarement, mais ouais, je mange encore de la dinde, ouais.
Est-ce que tu vois les dindes autrement depuis toute cette histoire ?
Ah, complètement, ça oui. C'est devenu un animal super sympathique à mes yeux. Et leur chant n'est vraiment pas si laid qu'on prétend.
En tout cas, Léonie, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Le Combat de Henry Fleming.
Qui ça ?
État de Virginie, 1863. C'est la guerre de sécession. Les États de l'Union font face aux sudistes dans des combats fratricides. Engagé sur le front, Henry Fleming est un jeune paysan. Il est parmi d'autres bouseux embarqués dans des combats qui le dépassent.
Mais qu'est-ce qu'on fout là ?
Il y a pourtant une cause à défendre. Et Henri est prêt, mais terrorisé. Et dans un premier temps, il va fuir les combats.
Je pars par l'autre côté, moi, les gars.
Pendant que certains se battent pour de vrai, lui va devoir affronter sa culpabilité.
Mais pourquoi je suis pas allé ?
Puis il va réussir habilement à réintégrer les troupes, alors que ses camarades le pensaient mort.
Oups !
Henri ira cette fois sur le champ de combat. Et plus que de ne pas se défiler, il va défier la mort comme s'il n'en avait plus peur. Se dressant contre l'ennemi malgré l'hécatombe qui l'entoure. Et le voilà, sur le front, en surhomme magnifique ou en abruti inconscient, on ne sait plus trop. Portrait psychologique de la peur, dans cette adaptation du roman de Stephen Crane, The Red Badge of Courage. dans un dessin bicolore en clair-obscur, Steve Cusor nous livre ici un album impressionnant d'esthétisme et de réalisme. Un monument de la littérature américaine adapté en BD. Le combat d'Henry Fleming, c'est aux éditions Air Libre. On continue avec American Parano.
C'est quoi cette BD ?
Bienvenue dans le San Francisco des 60s. Le corps mutilé d'une jeune femme a été retrouvé près du Golden Gate. Sur son cadavre, des traces de rites sataniques. La jeune inspectrice Kimberly Tyler s'empare de l'affaire. C'est une toute jeune recrue. Elle paraît fragile. C'est d'ailleurs peu commun qu'une telle enquête soit confiée à une jeune femme. Et elle doit en plus se taper les jugements sexistes de ses collègues. La tâche s'annonce difficile. Très vite, l'enquête vise le baron Yeval, un sombre personnage connu pour être le maître de cérémonie sataniste. Un personnage troublant, charismatique et sûr de lui, qui paraît le coupable idéal. Mais peut-être trop facile.
Alors, c'est lui ou c'est pas lui ?
Polar et roman noir, voici dans ce premier album une vraie ambiance, et qui peut d'ailleurs être soutenue par une bande-son disponible sur Spotify. Un dessin très pop pour le premier album de ce diptyque qui se dévore et donne envie de connaître la suite de l'enquête et du combat psychologique ouvert entre le satanique baron et la jeune policière. Une BD de Hervé Bourri et Luca Varela aux éditions Dupuis. Et on finit avec La mauvaise réputation, le tome 2 de ce diptyque qui raconte l'histoire du gang des Dalton, et plus particulièrement celle d'Emmett Dalton. Tout le monde a l'image des frères Dalton de Lucky Luke, mais cette fratrie qui a bien existé était un poil différente dans la vraie vie.
Ah bon ?
Certes, ce furent des bandits, mais avant de basculer dans les braquages de banques et de trains, ils étaient des marshals.
Sérieux ? Des hommes de loi ?
Emmett, lui, s'avère même un mari aimant, un brillant homme d'affaires et un homme de conviction prêt à s'engager contre la peine de mort. Après avoir payé sa dette à la société, le voici engagé dans le cinéma pour la production d'un film qui doit raconter qui étaient vraiment les Dalton et redorer leur image.
Mm-hmm.
Ce film s'intitule Beyond the Law et est sorti en 1918.
Oula, c'est vieux, c'est en noir et blanc bien.
Les Dalton à Hollywood dans ce diptyque qui offre un dessin aux couleurs nostalgiques et aux traits souvent proches de l'ambiance des tableaux d'Edward Hopper. Ambiance western mélancolique et cinéma américain des années 20, La mauvaise réputation, c'est de Antoine Ozanam et Emmanuel Bazin aux éditions Glénat.
Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors,
soyez des bulles.
Complètement des bulles.
T'es des bulles ou bien ?
On dirait qu'il te manque une case.
T'es des bulles ou bien ?
Il te manque une case.
Complètement des bulles.